Tous les moines, debout dans leur stalle, étaient courbés en deux, le front touchant presque au pupitre placé devant eux. Ils se relevèrent en répondant « Sicut erat in principio » et se rassirent en terminant « Et in cella cellulorum, amen ». Il est absurde de s'évaguer de la sorte, pensa Durtal. Je ferais mieux de suivre mes vrais que de courir ainsi la prétentaine à propos d'une fête dont la légende est d'ailleurs controuvée. L'histoire est plus simple. En 611, le roi des Perses, Chosroès, soumit Jérusalem avec l'aide des Juifs qui prétendaient reconstruire le temple. Il égorgea les chrétiens, fit prisonnier le grand prêtre Zacharie et emporta le bois de la vraie croix. Ce fut alors une croisade des catholiques contre ce mécréant. L'empereur Héraclius débarque en Cilicie, gagne la bataille d'Isus, retourne à Constantinople et, soutenu par les tribus du Caucase, se rue sur Trébizonde, où, pour venger le meurtre des prêtres de la Judée, il massacre les mages. Puis, après s'être allié avec les hordes de la Volga, il marche de nouveau contre l'armée des Perses, là-bas à Ninive, et se replie sur Taurus. Là, des propositions de paix lui sont présentées par Cisroès, le fils du roi qui vient d'assassiner son père. Elles sont acceptées. Le prêtre Zacharie est délivré, et la croix et les aigles romaines conquises à Jérusalem par Chosroès sont rendues. Chosroès aurait donc été trucidé par son fils, et sans qu'il soit question d'une tour machinée et d'un coq. Quant à Héraclius, il résolut de ramener le signe du salut au Saint-Sépulcre. Lorsqu'il fut arrivé à Jérusalem, il chargea la croix sur son épaule et voulut commencer l'ascension du Golgotha. Mais lorsqu'il eut atteint la porte de la ville qui mène à la montagne, il lui fut impossible d'approcher d'un pas. Alors, le patriarche Zacharie lui fit observer que quand le Christ était parvenu par cette porte, il n'était point paré d'habits royaux, mais vêtu simplement et monté sur un âne, donnant ainsi un exemple d'humilité aux siens. L'empereur se dépouilla aussitôt de sa pourpre, ôta ses sandales et s'affubla de la défroque d'un pauvre. Ce après quoi il franchit sans difficulté la pente du calvaire et replaça la croix au lieu même où Chosroès l'avait prise. Cela n'empêche pas que ce brave Héraclius a mal fini, conclut Durtal, car il a propagé l'hérésie des monothélites, c'est-à-dire de ceux qui, tout en reconnaissant la nature divine et la nature humaine de Jésus, n'attribuaient à ces deux natures distinctes qu'une seule opération, qu'une seule volonté. Et il est mort, laissant des successeurs demeurer célèbres par leur dévergondage et par leurs crimes. Et en voilà assez, revenons à notre office. Il lui fut facile cette fois de se récupérer. Le chœur chantait l'hymne de Fortunate, le Vexilla Regis, et l'envolée superbe de cette séquence, le défilé de ces strophes charriant d'impétueux trophées, le saisissait aux moelles. Il écoutait extasié ses cris de triomphe. L'étendard du souverain s'avance. Voici que resplendit le mystère de la croix. Et ses apostrophes débellatoires, ses clameurs d'allégresse. Arbre éblouissant que rougit le sang d'un dieu. Balance au bras de laquelle se suspend la rançon du monde. Salut, ô croix, unique espoir. Et ce fut la longue antienne du Magnificat, répétant les acclamations et les louanges du poète. Ô croix, plus radieuse que les astres, doux bois, doux clou, soutenant un poids plus doux encore. Et le Magnificat, entonné sur le ton solennel, et le Salve Regina, rappelant la créature à la réalité du péché, implorant après les hurrahs liturgiques sa grâce. Savez-vous qu'ils sont très attrayants, vos offices ? Dit madame Bavoile lorsqu'ils furent sortis de l'église. N'est-ce pas? C'est autre chose que dans les cathédrales de Paris et de Chartres. Ce qui manque toutefois à ces offices bénédictins, c'est la voix de l'enfant. Mais on ne peut tout avoir. Je devrais être blasée sur ces cérémonies depuis le temps que je les pratique. Mais non, Elle me semble chaque jour neuve. J'écoute encore avec plaisir ces quatre psaumes du dimanche dont nous sommes saturés, car ils se réitèrent éternellement à propos de presque toutes les fêtes. Pourquoi la liturgie attribue-t-elle une pareille importance à ces psaumes? Et au fait, pourquoi en avez-vous quatre au lieu de cinq, comme nous? Car enfin, il en manque un, le dernier. Oui, les vêpres bénédictines ont le dernier psaume du romain en moins. Et en plus, une leçon brève, qui est généralement une merveille de mélodie déférente et câline. Pourquoi? Je l'ignore. Sans doute parce que l'office monastique a été gardé intact depuis son origine, tandis que le romain s'est amélioré avec les âges et ne s'est arrêté que quand il a eu atteint sa forme définitive, son apogée. Quant aux causes qui ont motivé le choix des quatre premiers psaumes du dimanche, de préférence aux autres, pour empreindre de la parole du psalmiste tant de festivités, elles sont expliquées d'une façon plus ou moins élucide par les manuels. Pour le psaume du début, le « Dixit Dominus Domino Meo », cela se conçoit. Notre Seigneur l'a cité pour démontrer sa divinité aux pharisiens. Il est donc naturel que ce chant messianique occupe dans les vêpres la place d'honneur. Le troisième, « Beatus vir qui timet dominum », a été de son côté mentionné par saint Paul dans son épître aux Corinthiens pour les inciter à pratiquer largement l'aumône. C'est encore une raison de précédence. Moins clairs sont les mobiles à fournir pour les deux autres. Cependant, le deuxième, le Confitebor tibi, domine in toto corde meo, contient, en parlant de la manne que Jéhovah distribua aux Hébreux dans le désert, une allusion à l'aliment pascal. Peut-être est-ce pour cela qu'il fut mis hors de pair. Enfin, le quatrième, le Laudate Pueri Dominum, est un beau cantique de louange qui clôt dignement la série. Il n'en est pas moins vrai que les vêpres n'ont point ce caractère bien tranché de la prière du soir, si particulier dans l'office, admirable celui-là des complis. Il est fort possible que Don Cabrol ait raison lorsqu'il énonce dans son livre la prière antique que les psaumes des vêpres, dont les numéros se succèdent aux psautiers, ont été pris, sans souci du sens et de l'application, à la suite. Ces interprétations ne paraissent pas vous satisfaire. Mais, notre ami, je n'en sais rien. Il me semble au moins, selon ma petite jugeote, que vous cherchez midi à 14 heures. N'est-ce pas plus simple? Le premier psaume figure notre Seigneur, auquel, plus personnellement, il s'adresse. Le Beatus Vir s'applique au juste, à saint Joseph, qui est ainsi qualifié tout le long de son office. Le Laudate Pueri, qui rappelle par ses expressions mêmes le Magnificat, à la Sainte Vierge. Quant au second psaume, au Confitebor, je n'avais pas deviné, mais puisque vous m'attestez qu'il a trait au Saint-Sacrement de l'autel, c'est pour le mieux. Je puis, avec ces psaumes, prier plus spécialement Jésus en sa personne et sous les espèces eucharistiques, Sainte Marie et Saint Joseph. Je n'en demande pas plus, et ne m'inquiète point de savoir si cet office est plus ou moins bien adapté aux besoins des soirs. Autre chose maintenant. Nous voici en plein village. Cette boutique d'assez vilaine apparence qui se détache là-bas au fond de la ruelle, c'est celle du boucher où vous achetez la viande ? Oui, je dois vous prévenir maintenant que l'on mange ainsi qu'au cloître ici. Le boucher tue, un jour, un bœuf, soyons plus exacts, une vache, un autre jour un mouton, un autre jour un veau. La plus grosse part de ces animaux est naturellement réservée au monastère, qui, en dehors même des hôtes, a 50 bouches à nourrir. Nous devons donc emboîter la filière de la vache, du mouton et du veau servis au cloître. Car vous pensez bien que l'on n'abattra pas une bête exprès pour vous, pour M. Lampre et Mademoiselle de Garambois. Nous nous repaissons donc, tous, religieux et laïcs, de la même pitance, le même jour. Cela ne serait rien, malgré le manque de variété de ces mets, si ce boucher n'égorgeait son bétail la veille au soir ou le matin même où il le débite. Et, dame alors, on mastique des choses innommables, qui tiennent à la fois du caoutchouc et de la philosèle. La cuisine corrige jusqu'à un certain point les viandes trop fraîches, dit madame Bavoil. Seulement, il convient, en ce cas, de dire adieu aux côtelettes grillées et aux biftecks saignants. Il est en effet nécessaire de mettre à mijoter pendant des heures dans une casserole ce que... Comment appeliez-vous le gigot qui vous déplaisait à Chartres ? De la carne ou de la bidoche, madame Bavoil ? Ce sont les inélégants synonymes d'une irréductible viande. Madame Bavoil sourit, puis se frappa le front. « Voyons, fit-elle, si mademoiselle de Garambois est si gourmande, elle n'use pas de cette carne dont vous parlez. Alors, comment s'arrange-t-elle ? » ?»« Oh, elle et sa bonne sont constamment à Dijon, d'où elle rapporte des provisions. »« Eh bien, l'on agira au besoin comme elle. Combien de temps faut-il par le chemin de fer pour s'y rendre ?»« Une grande demi-heure. Seulement, les heures des trains sont incommodes. L'horaire est celui-ci, 6h30, 10h du matin et 2h de l'après-midi. Pour revenir, 6h et 11h du matin, 3 et 6h du soir, et c'est tout. Bien, et vous, vous allez souvent à Dijon ? Quelquefois, Dijon est une ville charmante, très cordiale et très gaie. Elle a un musée de primitifs, un puits de Moïse fort enviable, des bouts de rue encore curieux, des églises telles que je les aime. Et puis elle possède aussi une très excellente Vierge noire. Ah ! S'exclama madame Bavoil qui tomba en arrêt. Elle a une Vierge noire. Moi qui hésitais un peu, je vous l'avoue, à quitter Chartres, à cause de Notre-Dame de Souterre et du Pilier, je vais donc les retrouver ici. Mais ce n'est pas une Madone moderne, au moins. Rassurez-vous. Notre-Dame de la Port, ou de Bon Espoir, date du XIIe siècle, si je ne me trompe. En 1513, elle a sauvé la ville de Dijon, que défendait alors Louis de la Trémouille, à la tête de quelques troupes, de l'assaut et du pillage des Suisses. En souvenir de cet événement, l'on fit, chaque année, le 12 septembre, une procession en son honneur. Il en fut ainsi jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors elle cessa. J'ignore pourquoi. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Notre-Dame de Bon Espoir est en grande vénération dans la Bourgogne. Si son histoire détaillée vous intéresse, je vous prêterai un volume qui narre ses miracles, volume un tantinet mucilagineux d'un abbé Gaudrillet qui signe prêtre mépartiste de la paroisse de Notre-Dame. Ils étaient arrivés en bavardant à la maison. La mère Vergogna les y attendait. Durtal présenta l'une à l'autre les deux femmes, intérieurement égayées de leur contraste. Madame Bavoil n'avait guère changé. Ses cheveux s'étaient pourtant raréfiés, et ceux qui n'avaient point déserté étaient devenus plus blancs. La face était encore osseuse et chapelurée de son. Le profil s'attestait plus coupant avec l'âge, mais l'œil noir était demeuré le même, fureteur à la fois et placide. Elle tenait toujours de la paysanne et de la vendeuse de cierges dans une église, mais avec toujours aussi ce je ne sais quoi qui l'exauçait quand l'âme, phosphorée par les prières, prenait feu. L'autre s'avérait redondante et mafflue, haute en couleur. Elle avait l'œil porcin et des poils de brosse, poivre et sel, plantés sous un écuis. La bouche crénelée de dents couleur de rouille était hilare, et pourtant, lorsqu'elle se fermait, mince et pincée. Elle était ensemble une rempailleuse pocharde et une terrienne madrée. On pouvait lui faire le tour de l'âme en une seconde à celle-là. Madame Bavoil la vrilla de son œil noir, puis, après un soupir qui en disait long, elle lui déclara doucement qu'elle entendait entretenir d'amicales relations avec elle et qu'elle comptait l'employer souvent pour les gros ouvrages. Et sur cette assurance, la mine renfrognée de la mère Vergogna se détendit. Mais elle ne crut pas moins devoir se montrer plus bête qu'elle n'était en réalité, pour ne point se compromettre dans ses réponses. « Alors, voyons, insistait madame Bavoil, vous m'affirmez que l'on vend ici, chez la femme Catherine, du fil et des aiguilles et tous les objets de mercerie ?»« Mais ça dépend, ma bonne dame, il y a fil et fil. » La Catherine est bien empressée. Pour ça, vous pouvez consulter. Il n'y a qu'une voie. Madame Bavoile chercha vainement à démêler le sens de cette réplique. N'y parvenant point, elle posa une autre question relative au format du pain usité dans le village. La mère Vergogna ne parut pas saisir la signification des mots et prudemment elle bafouilla « Je ne saurais pas vous renseigner ». « Ce n'est pourtant pas sorcier ce que je vous demande, » reprit Madame Bavoile. « Le pain que fabrique votre boulanger est-il rond ou fendu? Est-ce de la miche ou du bouleau? D'ailleurs, il doit bien en rester à la cuisine. Apportez-le-moi afin que je l'examine. » La paysanne rapporta un crouton. « C'est du pain fendu, c'est tout ce que je désirais savoir. »«
Peut-être bien, » opina Madame Vergogna.
« Ah ça !» s'écria Madame Bavoile lorsqu'elle fut partie. « Est-ce qu'elles sont toutes ainsi au Val des Saints ?»«
Non, les autres sont pis. Celle-là est la mieux.
Vous voyez par cet exemple s'il est facile d'extirper un non ou un oui à ces gens-là. » »«
Eh vrai, notre ami, le confesseur doit avoir de l'agrément avec ce genre de paroissienne. Ce qu'elles doivent ruser avec lui est tourner autour du pot. »«
Elles ne tournent autour de rien du tout, attendu qu'elles ne se confessent point. »
Comment, dans ce pays monastique, les habitants ne pratiquent pas?
Je suis un bon républicain, c'est pourquoi je ne vais pas à la messe, est une phrase que vous entendrez souvent prononcée ici. Quant aux mœurs des paysans, ils sont tellement ignobles que mieux vaut n'en point parler. Ils ont été pourris par les placiers en politique des villes, jusqu'aux os.
Seigneur, s'exclama Madame Bavoile en joignant les mains, où sommes-nous? Me voilà maintenant obligée de vivre au milieu des compagnons de malheur de l'enfant prodigue, car si ce que je raconte, notre ami, est exact, ce n'est pas autre chose que ces gens-là.
Chapitre 3. Vous êtes de la maison, vous?
Je ne vous lave plus les mains, dit en riant le père abbé à Durtal et à M. Lampre. Allez tout droit à votre place. Et l'abbé s'effaça devant eux et s'arrêta sur le seuil du réfectoire. Il avait près de lui deux moines, l'un qui tenait un bassin et une aiguillère d'ancienne faïence, et l'autre une serviette. Un prêtre de passage s'avança. L'abbé prit l'aiguillère et lui versa en signe de bienvenue quelques gouttes d'eau sur les doigts, et le père hôtelier fit signe à cet ecclésiastique de le suivre et le plaça près de Durtal. Le réfectoire était une pièce immense, avec plafond à poutrelles posé sur des consoles curieusement ouvragées de marmousets et de fleurs. Il appartenait, ainsi que la salle du chapitre, l'oratoire intérieur et la chambre de réception des hôtes, au premier bâtiment du monastère qui remontait au XVe siècle. C'était tout ce qui subsistait, avec un grand escalier à vis et de vieilles caves, de cette partie de l'abbaye. Les autres constructions avaient été édifiées ou au XVIIe siècle ou récemment. En bas des murs blancs du réfectoire, lambrissés à mi-corps d'une cloison de pin, des bancs ininterrompus et des tables séparées entre elles pour livrer passage étaient scellés sur un plancher de la hauteur d'une marche, formant de chaque côté comme le trottoir en bois d'une rue qui serait pavée sur toute la largeur de sa chaussée de carrés rouges. Six larges fenêtres l'éclairaient de leur verre dépoli creusé de losanges. Au fond de la pièce se dressait la table du père abbé. Elle était semblable aux autres, mais la boiserie plaquée sur la muraille, derrière elle, s'appointait en forme de cône et était surmontée d'une croix. Cette table était flanquée de deux autres, une à droite pour le père prieur, une à gauche pour le père sous-prieur, qui mangeait, ainsi que l'abbé, seul. En face d'eux, enfin, à l'autre bout de la salle, près de la porte d'entrée, une chaire, adossée au mur, était occupée ce jour-là par un novice qui préparait la lecture du repas. Tout le monde était debout. « Bénédicité, dit l'abbé. « Bénédicité, répétèrent les deux rangs de moines. « Oculi omnium, in te sperant domine, et tout das escam illorum in tempore opportuno. Aperis tu, manum tuam et imples omne animal benedictione. »
Et le gloria de la doxologie courba en coup de vent toutes les têtes.
Elles se relevèrent au Kyrie Eleison et retombèrent pendant le pater, récité à voix basse, pour ne se relever qu'après. D'une voix qui s'enfla un peu vers la fin, l'abbé reprit « Oremus ». « Benedice, domine, nos et aec tua dona, quae de tua largitate sumus sumptuori, per Christum, etc. Amen. » Et dans le silence, la voix fraîche du novice en chair psalmodia sur un ton grave à la fois joyeux, « Iube domine benedicere ». Et l'abbé répondit « Mansae celestis participes facias nos rex externae glorie. » « Amen !» dirent ensemble tous les moines. Et ils saisirent et déplièrent leurs serviettes, qui contenaient en son rouleau le couteau, la fourchette et la cuillère. La table des hôtes était au milieu de la pièce, en face et près de celle du père abbé, qui la dominait, car elle n'était pas établie, ainsi que la sienne, sur un rebord de bois, mais à même sur le sol. Elle était séparée par un large espace vide de celle des convers, installée également sur la chaussée, mais à l'autre bout de la pièce, près de la chaire. Deux pères en tablier bleu servaient les religieux et les frères. Le père hôtelier était chargé des invités. Le dîner des hôtes, car l'on appelait au cloître le déjeuner-dîner, et le dîner souper était composé d'un bouillon épaissi par des îles réunies de semoule, d'un bœuf nature, d'un gigot aux haricots, d'une salade durement vinaigrée, d'une crème liquide que l'on buvait avec une cuillère à soupe et d'un peu de fromage. Celui des moines était le même, le gigot et la crème en moins. Les uns buvaient de l'eau rougie et les autres de l'eau. Le silence était de rigueur. Chacun mangeait le nez dans son assiette. Et toujours, après avoir psalmodié au dîner quelques passages de la Bible ou au souper quelques articles de la règle, le lecteur de semaine attaquait une lecture religieuse ou semi-profane précédée de cette annonce « S'ensuit l'histoire de » chapitre temps. Il devait lire d'un ton monotone, voulu, séculairement imposé sans doute, pour l'empêcher de plaire à ses auditeurs, ou de se faire lui-même valoir, et c'était comme une pluie de mots gris. L'on n'y prêtait guère attention au début, mais quand la première fringale d'appétit était satisfaite, les têtes se renversaient, les reins s'accotaient à la cloison, et si l'histoire était intéressante, on l'écoutait. Elle était malheureusement fort ennuyeuse d'habitude. On avalait des tranches historiques insipides, ou, ce qui était pis, des morceaux de vie de saint écrites dans ce style oléagineux cher aux catholiques. Et parfois alors, un sourire courait sur les lèvres des religieux en entendant pour la millième fois les expressions fatiguées de ces rengaines. Ceux qui avaient achevé leur repas essuyaient leurs couteaux et leurs couverts qu'ils réenveloppaient après les avoir lavés dans leurs serviettes. Le père abbé regardait si tout le monde avait consommé sa part de fromage et, d'un coup sec de son petit marteau, frappant la table, il arrêtait la lecture. L'hebdomadier, interrompu, changeait de voix, et lançait alors sur un ton modulé et plaintif « Tu autem domine miserere nobis ». Et tous, dans un brouhaha de pieds, se levaient et répondaient sur le même ton « Deo gratias ». L'abbé, de sa voix un peu chevrotante, mais qui s'assurait et s'amplifiait vers la fin des oraisons, commençait. « Confiteantur tibi, domine omnia opera tua. »« Et sancti tui benedictant tibi », répliquait le chœur. Ainsi qu'aux bénédicités, toutes les têtes se courbaient au gloria et l'abbé prononçait la prière. « Agimus tibi gratias, omnipotens Deus » pro universis beneficiis tuis, qui vivis et reinas in cecula ceculorum. Amen. Et l'on pivotait sur soi-même, et à la queue leu-leu, l'on quittait le réfectoire, les moines les premiers et l'abbé le dernier. L'on suivait le cloître en récitant le miséréré jusqu'à la chapelle où se terminait l'office des grâces. Une fois sorti de l'église, L'abbé invita, suivant l'usage, ses hôtes à prendre le café. La salle destinée à ce genre de réception était située au bas de l'escalier, menant aux deux étages des cellules, dans un petit corridor communiquant par une porte basse avec l'allée ogivale du cloître. C'était une salle massive, à murs énormes, si profonds que dans les embrasures des deux croisées, l'éclairant sur le jardin, l'on aura pu y allonger des lits. Ces murs badigeonnés au LED chaud et parés de photographies, représentant des vues de cette ancienne partie de l'abbaye, étaient ornés d'une cheminée en plâtre peint, au-dessus de laquelle se dressait un crucifix, dont la couleur était celle de ces papiers d'étain qui enveloppent les tablettes de chocolat. L'ameublement consistait en des chaises de paille et en une vaste table de bois blanc recouverte d'une toile cirée à raies. Autour de cette table étaient réunis le père abbé, don de Fontneuve, le prieur, don Feltin, le maître des novices, don Badol, l'hôtelier, l'ecclésiastique de passage, monsieur Lampre et Durtal, conviés en l'honneur de la Saint-Placide. Don Badol tournait sur lui-même à la recherche d'un sucrier qu'il avait devant lui, sous la main. Il était petit, de taille ramassée, et sa face d'ivoire froncée de mille plis eût été, si on l'avait coiffé d'un bonnet à ruche, la figure d'une vieille dévote, dont il avait d'ailleurs l'arrière-sourire jaune et doux. Sa façon de croiser ses bras en X sur sa poitrine, en saluant, sa politesse affectée et ses manières obséquieuses gênaient. Et ce qui était curieux, c'est que cet homme, si aimable pour les autres, était pour lui-même rigide. Quand sa journée de causerie et de révérence était finie, il se sanglait de coups de discipline, se reprochant de ne pas savoir garder sa vie intérieure dans cette existence forcément dissipée par le va-et-vient des hôtes. Il n'arrivait pas à concilier les devoirs de sa charge avec son propre recueillement, et l'on se demandait parfois, en regardant ses yeux colorés de ce bleu clair et froid, presque méchant, des prunelles au repos des chats de Siam, s'il n'aurait pas volontiers fustigé aussi ces passants qui lui causaient, sans le vouloir, tant de remords. Il était un moine exemplaire, un prêtre très pieux, mais de compréhension brève et d'intelligence bornée. Après l'avoir essayé dans divers emplois, qu'il s'était révélé incapable de remplir, on lui avait délégué la facile mission de soigner les étrangers. Il s'en acquittait assez bien lorsque les hôtes n'étaient pas plus de deux. Passé ce chiffre, il s'affolait et réclamait un aide. Le prieur contrastait singulièrement avec lui. Don de Fontneuve portait gaillardement ses 70 ans, et la lucidité et la vigueur de son esprit, sa science, célèbre dans le monde des historiens, faisaient de lui la personnalité éminente de cette abbaye. L'été, on venait de toutes les contrées du monde le consulter. On lui soumettait des textes qu'il décortiquait en se jouant. Il épluchait les fautes des copistes et calait les interpolations, rétablissait le texte primitif en un clin d'œil. Il était d'ailleurs un répertoire, connaissait la bibliothèque du monastère volume par volume, et, en une minute, il dénichait un renseignement qu'il eût fallu à tout autre plus de 8 jours pour découvrir. Il restait à notre époque comme l'un des derniers spécimens de cette forte génération de moines que pétrit Don Guéranger. Il avait parcouru les bibliothèques, fouillé avec Don Pitra toutes les archives de l'Europe. Mais ce qui valait encore mieux que son incomparable érudition, c'était son ardente bonté. Il était un amoureux d'âme. Il se jetait sur elles, les étreignait passionnément, pleurait de joie à l'idée qu'il avait pu en sauver une. On le disait en riant, mais le mot n'était que juste. Il est la mère grand du cloître, celle à qui l'on va raconter ses peines et qui vous console. Il avait vécu dans plusieurs couvents, il avait été la victime de bien des brigues, et il n'en avait pas moins conservé une âme d'enfant, ne croyant point au mal, aimant réellement ses frères ainsi que le veut la règle, prêt à embrasser, sans même l'ombre d'une rancune, celui d'entre eux qui l'aurait le mieux desservi. Il sourdait du fond de son être un torrent d'affection qui noyait tout, un besoin de n'admettre que le bien, une sensibilité telle qu'une simple expression affectueuse l'émouvait jusqu'aux larmes. Avec sa bonne grosse tête ronde, ses yeux qui pétillaient dans sa face ridée, il suggérait une impression de robustesse et aussi de malice, mais de douce malice aimant à rire et se contentant, pour s'égayer, de peu. Son seul défaut, c'était sa pétulance. Il montait ainsi qu'une soupe au lait, alors qu'il s'apercevait que des religieux n'observaient pas la règle. Il les réprimandait furieusement, frappant du poing la table, puis, quand le coupable était parti, il courait après lui, l'embrassait, le suppliait de lui pardonner sa véhémence. Et sa tendresse, son désir de réparer ce qu'il croyait être, dans sa paternelle bonté, une avanie, était telle que le délinquant pouvait alors manquer impunément aux observances. Il avait si peur de se refâcher et de contrister son frère qu'il se taisait, rongeant son frein, pendant un certain temps. Le père abbé était plus calme, d'une bienveillance plus régulière. Il fermait les yeux sur les travers de chacun et regardait son prieur jouer le rôle de père fouettard, sachant fort bien que les remontrances n'étaient que les préludes des gâteries. Aussi souriait-il, et des unes et des autres. Lui se bornait, à près de 80 ans, à donner l'exemple. Il descendait, rasé de frais, une demi-heure avant tous les siens, à l'église, et il les méditait et priait jusqu'aux matines. Et les jeunes gens, qui avaient un peu de mal à s'extraire l'hiver à 4 heures du matin du lit, vénéraient ce grand vieillard émacié, un peu voûté, qui ressemblait, avec son nez et ses lunettes, au cardinal archevêque de Paris. Et ils admiraient sa résolution de n'accepter aucun bien-être et aucune de ses aises, qu'eussent amplement justifié son âge et les infirmités dont il souffrait. Il y avait, au reste, beaucoup de finesse sous la bonhomie de cet excellent homme, si prompt à ne jamais sévir. Il connaissait trop bien les défauts de ses enfants, et il les définissait parfois d'un mot drôle. « Le père titourne, » disait-il d'un professe, toujours éberlué, toujours en retard aux offices. « Le père titourne, il a des courants d'air dans la cervelle. Que voulez-vous que j'y fasse ?»« C'est un monastère trop débonnairement mené, » grondait le terrible monsieur Lampre. Avouez alors que cette mansuétude prouve la vertu de ces moines, répondait Durtal. « Car enfin, dans le monde, une maison dirigée si débonnairement croulerait, et ici pourtant tout marche. » Monsieur Lampre était bien obligé d'en convenir, mais il n'en continuait pas moins de bougonner. Ce petit homme de 70 ans, bedonnant, à la mine empourprée, à la barbe sanglière, aux cheveux tout à fait blancs, était grognon, mais complaisant et généreux. Il était aussi très pieux, mais il ne détestait pas les plaisanteries salées et aimait à rire. Il était le seul qui fût bourguignon, parmi tous ces gens issus de pays différents et répandu pêle-mêle dans l'enclos du cloître. « Voyons, » fit le père hôtelier qui rentra, une cafetière à la main, « le fourneau s'était éteint et je ne voulais pas pourtant vous offrir du café froid. Cela m'a mis un peu en retard. Excusez-moi et veuillez vous sucrer. » Il remplit des tasses microscopiques et versa dans des petits verres de la valeur d'un dé à coudre quelques gouttes d'eau-de-vie blanche. « Eh bien, » dit Don de Fauneuve à Durtal, « êtes-vous satisfait de la cérémonie de ce matin ?»« Mais oui, mon père, les novices s'en sont expertement acquittés. »« Il faut qu'ils le sachent, car cela les rendra heureux, » s'écria le brave prieur. La simple acide était en effet un événement dans les monastères de Saint-Benoît. Ce saint était le patron des novices, et il remplaçait les pères qui s'effaçaient devant eux ce jour-là. Ils exécutaient l'office, entonnaient les antiennes, chantaient les morceaux, étaient, en un mot, les maîtres du chœur. « Vous avouerez bien pourtant, mon cher Durtal, fit monsieur Lampre, que si le père chantre n'était pas venu à leur aide, pendant le Gloria in excelsis et le graduel, il ne s'en serait pas sorti. » « Mais avouez aussi, répliqua Durtal, que le plein chant de cette messe est difficile à chanter, et, qui plus est, irritant par ses simagrées et laid. Existe-t-il en art quelque chose de moins musical et de plus incohérent que ce gloria in excelsis, soi-disant de luxe, un gloria de cave et de grenier, le chemin de fer russe des voies avec ses montées et ses descentes? Ajoutons que le credo dansant des grands jours est fort inférieur au credo ordinaire. Il n'y a vraiment dans cet office que la deuxième phrase du graduel et que l'alléluia qui soit bien. Quelle différence avec ces messes frugales, si franches, avec ce plein chant vraiment céleste que l'on chante aux pauvres fêtes. Au reste, plus je l'écoute, et plus je suis convaincu que la musique grégorienne n'est pas du tout un article d'apparat. Les Kyrie et les Ison, si implorants, si gémissants, si doux, des jours habituels, deviennent arabiscotés, dès qu'à l'occasion d'une plus importante festivité, on les veut vêtir. On dirait alors que l'on a adapté à de pures mélodies gothiques des ornements coulés dans du staff, des neumes de plâtre. N'est-il pas exact, en effet, que les messes solennelles sont fort inférieures, musicalement parlant, aux messes familières des petits saints? Rappelez-vous aussi certains samedis chômés d'élus, où l'on célèbre la messe simple de la Sainte Vierge. Le Kyrie 7, suppliant, court, sonnant un peu tel qu'un glas, et le Gloria d'une ampleur dans l'allégresse si tranquille, d'une certitude si délibérée dans la louange. L'Agnus Dei évoquant l'idée d'une prière d'enfant, avec sa mélodie ingénue qui quémande au Seigneur en câlinant. Tout cela est admirable de sobriété et de candeur, bien au-dessus de ces airs compliqués, de ces cantilènes que l'on a déformés pour les étendre et qu'il nous faut subir sous prétexte de rites supérieurs, de hiérarchies plus éminentes de saints. Le fait est, dit le père de Fauneuve, que le plein chant a été créé pour être chanté par le peuple. Il doit donc être facile à apprendre et à retenir, sans vocalises inutiles, sans difficultés combinées ainsi qu'à plaisir. Et votre remarque est juste. On l'enlaidit en voulant l'allonger et l'affubler d'une traîne de cour. Cela est si vrai, d'ailleurs, que les jeunes gens et les jeunes filles du village qui ont été instruits par le père Ramondou chantent très bien à la grand-messe du dimanche, lorsqu'il s'agit d'un simple double, et qu'ils bafouillent si l'office monte en grade, devient par exemple un double de première classe. Ah ! S'écria Durtal, qui revivait certains offices. La deuxième phrase du graduel, qui est généralement le morceau de choix des messes, certains alléluia d'une jubilation toute divine, et des messes entières, de l'introit à l'ite missa est, celle du Saint-Sacrement, celle de la Sainte Vierge, celle d'un abbé, ou le dilexisti des Vierges, quelle souveraine trouvaille, quelle radieuse merveille! Là, la parure est complète. L'on comparerait assez bien, selon moi, le commun des saints à une série d'écrins où les joailleries sont rangées, tantôt sur du velours rouge pour les martyrs, tantôt sur de velours blanc pour les saints, qui ne sont pas désignés sous ce titre. Chacun de ces coffrets renferme un ensemble de pièces. L'introït, le Kyrie et le Gloria, le graduel, l'Alléluia ou le trait, l'offertoire, le sanctus, la communion, un tout musical qui correspond à la parure entière d'une toilette, aux boucles d'oreilles, aux colliers, aux bracelets, aux bagues, dont les montures et les pierres se concilient comme ton et s'assortissent. En somme, le médiocre est l'exception et l'admirable domine, fit le père abbé. Vous pouvez citer un gloria exécrable, quelques hymnes aux mélodies confuses ou fades, mais qu'est-ce cela en face de la masse imposante, superbe de nos offices? Vous avez raison, mon révérendissime. Nos critiques ne peuvent en effet porter que sur un nombre restreint de pièces, et j'ajoute sur celles qui sont les moins antiques ou les plus réparées, car il semble que plus le chant grégorien est simple, et plus il est intact, et plus il est ancien. Le malheur seulement, c'est que les jours de fêtes carillonnées, où l'on serait heureux de voir la musique égale en beauté au cérémonial et à la pompe du rite, l'on n'est précisément condamné à n'entendre que de la quintessence de mauvais chants. Ce n'en sera pas moins la gloire de Don Potier et de l'école de Solesmes que d'avoir ressuscité ces antiques cantilènes qui sont la vraie musique de l'Église, la seule en somme, car tous les musiciens les plus forts, depuis Palestrina jusqu'au maître de nos jours, ne sont jamais parvenus, lorsqu'ils ont voulu traduire les proses liturgiques, à égaler la valeur de certains de nos kyriés, du pater des vêpres, voire même de nos credos. Et je ne parle pas du Te Deum et des leçons et des évangiles de la semaine sainte, s'exclama Don de Fauneuve. La question serait d'abord de savoir, répartit M. Lempre, si la musique palestrienne dont on nous rabat les oreilles, depuis le succès de snobisme des chantres de Saint-Gervais, est de la musique d'église. Et moi, j'en doute. Ce système de chevauchées de voix qui galopent les unes sur les autres pour se rattraper à la fin et atteindre en même temps le but, c'est de l'art de steeplechase. Ça devrait s'entendre dans une enceinte de pesage et non dans le logis du Christ, car ça n'a, au demeurant, aucun rapport de près ou de loin avec un cri de l'âme, avec une prière. Ces excès de la fugue et du contrepoint ne me disent pas à moi non plus rien qui vaille, répliqua Don de Fauneuve. Cet art-là sans le théâtre et le concert, il est personnel et vaniteux. Alors en quoi cette musique en état de péché peut-elle bien intéresser et les fidèles et le prêtre? Elle adule le goût anti-liturgique des uns et des autres, fit en riant Durtal. Pour en revenir à nos novices, reprit Don Feltin, qui jugea bon, sur cette dernière remarque, de détourner la conversation que n'écoutait pas d'ailleurs le prêtre de passage en train de discuter sur la crise vinicole avec le père hôtelier, tenez compte qu'ils n'ont eu, faute de temps, que deux répétitions, et convenez qu'à part le Gloria raté, ils s'en sont adroitement tirés. « Oui, père, est-ce que le frère Blanche, sous sa lourde chape et avec le bâton du préchantre, était glorieux et charmant ?» Le père abbé souriait. « N'est-ce pas qu'il est gentil, ce brave enfant ? Et les autres ne le sont pas moins. C'est la bénédiction d'une abbaye que ces petits-là. » Et il énumérait ses poussins. « Ce frère Blanche est pieux comme un ange. Il aime l'archéologie et raffole de la liturgie. Il est en plus doué d'une très jolie voix. Nous dirigerons ses études dans ce sens, et il sera vraiment l'honneur de notre monastère. Le frère Gèdre est également fidèle à Dieu, et il mord vaillamment aux Grecs. Si nous pouvions trouver en lui l'étoffe d'un bon helléniste, ce serait parfait, car nous en manquons. Le frère Sourche est le plus intelligent, le plus capable de tous, mais il a l'esprit inquiet et des tendances au rationalisme. Dans l'atmosphère du cloître, elles passeront. Les frères Marigot et Vénérand ne sont pas, au contraire, très compréhensifs. Ils peinent sur la théologie, sans progresser, mais ils sont bien soumis et bien obéissants. Ils seront plus tard chargés dans la maison des diverses besognes qui n'exigent ni effort intellectuel, ni aptitude spéciale. Quant aux novices, déjà prêtres, quand ils entrèrent, ils sont excellents, et nous n'avons qu'à nous en louer.
« Et vous oubliez, mon révérendissime, le frère de Chambéon, » dit Don Feltin. « Le saint homme, voilà où vraiment le mystère d'une vocation tardive s'atteste, » continua l'abbé, après un silence. Monsieur de Chambéon a quitté le monde où il occupait une belle situation pour être admis à l'âge de 55 ans dans notre noviciat. Il s'est refait enfant pour vivre avec des gamins de 17 à 20 ans, et il prêche l'exemple. C'est lui le frère excitateur, celui qui est debout le premier pour sonner la cloche et réveiller les autres. Il frotte les escaliers, il mouche les lampes, il accomplit encore des travaux plus humbles. Et cela si simplement, en s'excusant presque d'accaparer ses pénibles tâches. J'ai moins besoin de sommeil à mon âge, et j'ai plus l'habitude des choses du ménage que ces jeunes gens. Bref, il invente toujours d'excellentes raisons pour s'imposer les corvées les plus humiliantes. « Il m'édifie profondément, » dit à son tour Don Prieur,
quand je le vois avec ses cheveux tout gris, rire et s'amuser au milieu de nos blancs becs. « À propos, » plaça le père hôtelier qui avait fini de déplorer avec le prêtre de passage la mévente des vins, « que racontent les journaux ? Parle-t-il encore de nous étrangler dans le piège d'une loi ?»« Mais oui, mon père, » répondit M. Lampre, « ils en parlent de plus en plus. La presse franc-maçonne pousse à la roue. La persécution diabolique approche. « Bah !» s'exclama avec une belle assurance don de Fauneuve. « Ils n'oseraient pas. Jamais les chambres ne voteront une loi pareille. Toucher aux ordres religieux, c'est un bien gros morceau, et personne n'est de taille à l'avaler. Pour moi, on amuse les badauds avec des menaces qui n'aboutiront point. « C'est à savoir, » répliqua Durtal. « Remarquez comme l'attaque à l'Église se poursuit, depuis de longues années déjà, avec un acharnement méthodique que rien n'enraye. Le cercle des libertés laissé aux catholiques se resserre. L'affaire Dreyfus a avancé les affaires de la maçonnerie et du socialisme de plus de 20 ans. Elle n'a été en somme qu'un prétexte pour sauter à la gorge de l'Église. C'est la sortie en armes des juifs et des protestants. Leurs journaux sonnent déjà la lalie du moine. Pensez-vous qu'ils s'arrêteront en si beau chemin ? Et puis, il y a, pour activer le zèle des loges, un sectaire qui exècre Dieu autant qu'un démon. « Le sieur Brisson, » dit M. Lampre. « Faut-il, » fit lentement don de Fauneuve, « faut-il que cet homme ait commis dans sa pauvre existence des actes misérables pour haïr ainsi notre Seigneur ?»« N'importe, » conclut le père abbé, « je suis de l'avis de don prieur. L'orage n'est pas près d'éclater. On le détournera ailleurs. » Par des prières. Je crois que nous pouvons, en attendant, dormir sur nos deux oreilles, en paix. Les tasses et les petits verres étaient depuis longtemps vides. Le père abbé donna, en se levant, le signal du départ, et il regagna ainsi que le prieur sa cellule. Le père hôtelier accompagna l'hôte. M. Lampre et Durtal suivirent don Feltin, qui les emmena se promener dans le jardin. La récréation monastique était un peu allongée à cause de la fête et n'était pas terminée. Les pères se promenaient sur deux lignes, marchant à tour de rôle, l'une devant elles et l'autre à reculons, dans une allée de charme. Et les novices faisaient de même à l'autre bout du jardin, dans une autre allée. Le jardin, formant une sorte de quadrilatère, était situé derrière l'abbaye et il s'étendait au loin dans la campagne. On débouchait de plein pied, en sortant du cloître, devant des carrés de terre, où des haricots et des choux alternaient avec des fleurs, et ces carrés, plantés à leurs quatre coins de poiriers en quenouille, étaient coupés par de petits chemins bordés de buis qui menaient alors à de grandes avenues d'arbres, au fond desquelles apparaissaient des prairies et des vergers, que fermait à une longue distance une haie de peupliers, derrière laquelle se dressait le mur de clôture. L'aspect était un peu rectiligne, mais la végétation était puissante, les prés frais et gras, et partout des pampres escaladaient en un nonchalant fouillis des murailles aux arêtes couvertes de mousse vert émeraude et de lichen soufre. L'allée réservée aux novices était à droite. Simplement façonnée par un berceau touffu de vignes, elle aboutissait à une grotte surmontée d'une médiocre statue de Saint-Joseph. Cette grotte se divisait en deux compartiments grillagés. L'on entretenait dans l'un des corbeaux, en souvenir de Saint-Benoît, qui aimait à distribuer à l'un d'eux, devenu son servant, sa pâture. Dans l'autre des colombes, en l'honneur de Sainte-Scolastique, dont l'âme s'envola, sous cet aspect, au ciel. C'était une après-midi rousse et bleue, un de ces jours où le sourire d'un vieux printemps renaît sur les lèvres qui se fripent à peine du jeune automne. Le firmament voilé se déchirait tout à coup et criblait à travers les feuilles de vigne le sol de larges gouttes de lumière et d'ombre. L'on semblait fouler aux pieds une nappe de dentelle noire couchée sur un fond de cailloux pâles. Les novices s'abritaient du soleil en relevant les uns leurs capuchons, les autres en ramenant sur leur tête la partie dorsale du scapulaire. Ils riaient avec le père Émono, leur sous-maître, le père zélateur, comme on le nomme. Ce père Émono, ancien vicaire d'une église de Lyon, était un petit homme nerveux, à la tête chauve et enfoncée, à la renverse dans le cou, au teint bilieux, aux yeux qui couraient pour qu'on ne les saisît pas sous des lunettes. Les offices, dont les novices étaient jusqu'au soir les exécutants, étaient naturellement le sujet de l'entretien. « Que voulez-vous ? » soupirait le petit Blanche. « J'avais une peur. Quand il faut entonner l'antienne, je me trouble. Je ne suis bon que dans le cœur. Puis vous savez, lorsqu'on entend dans le silence de l'église sa voix seule, ça vous la fait aussitôt trembler. » « Pas de modestie, petit frère, » fit Durtal, qu'entourèrent les moinillons. « Vous avez très bien chanté. » L'enfant rougit de plaisir. « C'est égal, » reprit-il en baissant les yeux. « Je le sentais bien moi-même. J'avais de la laine dans le gosier. J'étouffais. Ah !»« Et puis, cette chape dont on n'a pas l'habitude vous pèse sur les épaules et sur les bras. On se trouve emprunté, tout gauche, là-dedans. »
« Un bleu qui s'embête dans une guérite !» s'écria le frère aimé.
« Vous avez toujours des comparaisons qui rappellent la caserne, et des expressions qui n'ont rien de monastique !» fit le père zélateur à ce frère, dont l'allure de faubourien de Paris détonnait un peu dans le groupe. Celui-là n'était que postulant, et il avait des chances de partir avant que de commencer sa probation. Il était intelligent et pieux, mais il avait rapporté de son année de service militaire des allures délurées et une manie d'imiter avec sa bouche des bruits de musique guerrière qui exaspéraient le père Émono, homme timoré et éperdument bégueule. Il s'en serait déjà débarrassé si Don Feltin n'avait plaidé la cause du coupable au chapitre. « Voyons, voyons, disait-il, ne prenons pas les choses au tragique. Le frère aimé se corrigera avec le temps. Le milieu agira, attendons. » La fin de la récréation sonna. Les novices se turent et regagnèrent sous la conduite du zélateur l'abbaye. Don Feltin resta avec M. Lampre et Durtal et les conduisit dans le pré. « Jamais ces deux êtres ne parviendront à s'entendre, » s'exclama M. Lampre. « Que voulez-vous ? » répondit le père. « Don Émono n'admet pas qu'on badine. Et il faut pourtant bien qu'il y ait pour ses esprits, tendu par la prière, une détente. Que ce postulant ait une mauvaise tenue, c'est incontestable, mais enfin cela se réforme. Le plus ennuyeux, c'est cette manière qu'il a de jouer de l'ophicléide avec ses joues, et de parler à tort et à travers, et de rire. Ces facéties sont, je le veux bien, innocentes, mais n'empêche que l'autre jour, en entendant une, le père zélateur s'est fâché tout rouge, et a adressé une plainte au père abbé, qui s'est borné heureusement à sourire. Quelle bouffonnerie a-t-il encore commise ? Voilà, je venais de commenter, dans ma conférence, le chapitre 33 de la règle, où il est déclaré que personne ne doit avoir la hardiesse de faire sien aucun objet, pas même en parole. C'était l'explication de la façon de parler des moines qui ne doivent pas dire « mon livre, mon scapulaire, ma fourchette », mais « notre livre, notre scapulaire, notre fourchette ». Il va de soi que ce mode impersonnel de désigner les choses ne s'applique qu'aux ustensiles destinés à notre usage. Or, la conférence n'était pas plutôt terminée que le frère aimé s'empressa de marcher sur le pied du petit Blanche et de s'excuser en ces termes. « Je crois, mon frère, que j'ai marché sur notre pied. » Le père Émono qui écoutait a vu dans cette blague un manque de déférence pour moi. Je vous demande un peu. C'est une plaisanterie facile, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, fit Durtal. Enfin, s'écria M. Lampre, pourquoi diable aussi gardez-vous comme sous-maître des novices un homme dont les idées sont si étroites ? Le père Feltin rit. Nous nous complétons. Le père Émono possède ce qui me manque pour la direction d'un noviciat. Il a l'ordre, le besoin de surveillance, l'alerte toujours en éveil. Et ces qualités sont indispensables dans un milieu qui se divise forcément en deux groupes, celui des novices d'un certain âge qui sont prêtres et celui des jeunes, des bambins qui ne le sont pas. Il y a là un sujet de froissement, les uns se croyant supérieurs aux autres et les autres arguant de la règle pour repousser cette prétention. Eh bien, le père zélateur est très habile pour empêcher ces minuscules discordes de naître. Aucune ne se produit depuis qu'il est là. Il traite tout le monde d'égal à égal. avec cependant de si parfaites nuances que personne ne se plaint. Et puis vous, mon cher Durtal, qui, en votre qualité de novice d'oblature, pouvez pénétrer dans le noviciat, avouez que les corridors sont bien cirés, qu'il n'y a pas un grain de poussière, que toutes les cellules sont bien tenues. Le père Émono a introduit l'air et la propreté partout. Il a obligé les novices au travail manuel indispensable pour la santé et prescrit par le patriarche, alors qu'avant lui, ce travail se bornait à leur faire cirer les chaussures des pères le samedi. Il a enfin plié tous ses élèves à une discipline excellente, et pour le corps et pour l'âme.
« C'est un adjudant de caserne, » ronchonna M. Lempre.
« Eh, ils sont nécessaires. Moi, je deviens vieux, et si je vaux encore pour les conférences, pour les directions, pour la partie spirituelle, je suis absolument incapable de m'occuper de la partie pratique. Ce serait le laisser-aller, la malpropreté, le désordre, si je n'étais secondé par ce zélateur qui peut être scrupuleux et étroit, mais qui n'en est pas moins, au demeurant, un très saint moine. »
« Enfin, dit en riant Durtal, il serait trop heureux, vos élèves, s'ils ne l'avaient pas pour le morigéner. Le cloître serait un éden, alors. »
La cloche sonna. « Voici le premier coup des vêpres. Adieu, » fit Don Feltin qui se retira.